Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. Effectivement, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, le futur nouveau gouvernement. Ça y est, c'est pour aujourd'hui. Dans ce journal également, un premier cas de variole du singe, confirmé en France. Et puis ce drame hier dans le Finistère, un couple et l'un de leurs enfants emportés par une vague sous les yeux de leurs trois autres enfants.
Les deux focus du jour, la variole du singe, faut-il ou non s'inquiéter? On posera la question au professeur Combes. Et à 12h50, pas d'état de grâce pour Elisabeth Borne. La cote de popularité de la nouvelle première ministre est en dessous de celle de ses prédécesseurs à leur arrivée à Matignon.
Notre question du jour sur RTL.fr, elle concerne le nouveau gouvernement. Et cette question, faut-il ou non moins de ministres? Notre météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
17 départements sont en alerte orange, alerte aux orages.
Oui, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne et l'Île-de-France. Alors pour l'heure, les pluies sont, on sait, hein, sur le bassin parisien. Le gros des orages se situe vers les Hauts-de-France et vers les Ardennes. Des orages qui vont peu à peu se décaler le long des frontières du Nord dans le courant de l'après-midi. Pour les autres, ben, on a un beau retour d'éclaircies pratiquement tout l'après-midi avec des vents assez forts dans le sud du pays et des températures qui sont en légère baisse quand même après le passage des pluies. 19 degrés à Brest aujourd'hui, 20 degrés à Lille, 22 à Biarritz, 25 degrés à Paris, encore 31 à Aurillac, 33 degrés à Dijon et 34 degrés à Perpignan.
Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure 13h pour le programme du week-end.
RTL Midi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé.
On connaît la formule pour la liste, pour le détail, il va falloir encore patienter. C'est cet après-midi que sera annoncé le nouveau gouvernement dans la foulée passation de pouvoir avant un conseil des ministres prévu, lui, lundi. Alors, qui remplace qui? Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
On commence d'abord avec ceux qui devraient rester.
Alors, bien sûr, on parle encore au conditionnel, hein, parce que tant que ce n'est pas officiel, cela peut changer, mais a priori, Gérald Darmanin devrait être reconduit au gouvernement. Pareil pour Bruno Le Maire, Gabriel Attal et le centriste Marc Fesneau. Peut-être que leur porte de feuilles changeront, mais ils devraient bien faire partie du casting du premier gouvernement d'Elisabeth Borne. Ce qu'on peut également vous dire à midi, c'est qu'Olivia Grégoire, actuelle secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, devrait-elle être nommée porte-parole, un poste stratégique très exposé.
Ah bon, on imagine qu'il y aura aussi de nouvelles têtes.
Oui, on parle d'élus locaux, des députés. D'abord, Catherine Vautrin, élue LR qui dirige l'agglomération du Grand Reims. Elle avait été pressentie pour devenir première ministre. Son lot de consolation, et il ne serait pas des moindres, serait le ministère de la Justice. Damien Abad, le chef de file le DLR à l'Assemblée qui vient de se mettre en retraite, son parti, lui aussi pourrait être dans ce gouvernement. On évoque des profils un peu moins connus, mais des députés spécialistes en leur domaine. Yael Braun-Pivet, spécialiste des prisons, ou encore Jean-Noël Barrot sur les questions économiques. Enfin, un nom qui revient pour le ministère de la Culture, Rima Abdul-Malak. Vous ne la connaissez sans doute pas, Amandine, c'est la conseillère culture d'Emmanuel Macron. Son nom circulait déjà au premier remaniement, sans succès. Réponse dans l'après-midi.
Voilà, et on n'a pas d'horaire précis pour l'instant.
Pas encore.
Pour cette annonce, merci à vous Thomas Després.
Les prétendants à l'Assemblée nationale ont eux jusqu'à 18h ce soir pour déposer leur candidature.
Et RTL vous le révélait dès hier, François Hollande n'ira pas, il ne sera finalement pas candidat en Corrèze, Benjamin Sportouche.
Oui, tout à fait, l'ancien président devrait l'officialiser cet après-midi dans le journal La Montagne, il jette l'éponge. Alors officiellement, parce que dit-il, ne se passe plus rien à l'Assemblée. Alors, c'est pas très sympa pour ceux qui seront élus. Mais la vraie raison, eh bien, c'est que le risque d'une défaite était très grand. Il se serait retrouvé face à un candidat de la NUP, un insoumis en plus, une décision que François Hollande a d'ailleurs jugée inélégante. Et puis, le député sortant est modem. Bref, François Hollande allait au casse-pipe. Pour autant, il n'a pas dit son dernier mot, l'ancien président. Il a toujours en tête de construire un mouvement à côté du Parti Socialiste, puisqu'il n'accepte pas le leadership de Jean-Luc Mélenchon. Mais les électeurs du PS, Amandine, l'attendent-ils? Pas vraiment, si on en croit notre sondage BVA. Il est leur troisième choix, derrière Martine Aubry et Benoît Hamon.
En effet, merci à vous Benjamin. Et on vous retrouve.
Benjamin Sportouche qui sera avec nous évidemment avec les auditeurs à 13h pour nous donner des coulisses et des informations.
Oui, mais entre 13h et 14h, vous allez chercher des noms.
Vous dialoguerez avec les auditeurs. Vous êtes indispensable à notre réflexion.
Bon. Comme ça, je vais venir.
Bon, ça va. Ouf. En attendant, ce premier cas de variole du singe confirmé ici en France, ce matin par les autorités. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Il s'agit d'un homme qui vit en Île-de-France.
Oui, un homme de 29 ans qui n'a pas voyagé en Afrique et qui n'a pas dans son entourage de personnes qui y ont séjourné. Il va bien, il est chez lui, isolé, et une enquête est en cours pour recenser les personnes qu'il a rencontrées récemment. Contrairement au Covid, un malade n'est contagieux que lorsqu'il a déjà des symptômes, donc de la fièvre, mal à la tête, des ganglions et des boutons. Santé publique France a expliqué ce matin qu'il n'était pas question donc de mettre les cas contacts en quarantaine. Ils vivent leur vie, mais en surveillant fièvre et boutons. Dans ce cas seulement, ils restent chez eux et mettent un masque. Donc, un cas en France, une vingtaine en Amérique du Nord et en Europe, surtout des homosexuels hommes. Il y en aura sans doute beaucoup plus ce soir, précisent les autorités françaises. Maintenant que l'alerte est lancée dans le monde entier, les malades vont être plus rapidement identifiés. Selon Santé publique France, le virus circulerait en Europe sans doute depuis un mois.
Merci à vous Virginie Garin. Faut-il ou non s'inquiéter de cette multiplication de cas? On posera la question au professeur Combes, il sera l'invité d'RTL Midi dans une dizaine de minutes. Valérie Quintin nous le disait, 17 départements sont toujours en alerte aux orages, une pointe qui va en gros du nord à la Seine-et-Marne, de l'Eure à la Meuse. Des orages parfois violents, quelques dégâts signalés notamment en Mayenne à Château-Gontier. Plusieurs commerces ont été inondés, dont une boulangerie et un supermarché.
On en vient à ce drame dans le Finistère. Trois membres d'une même famille emportés par une vague.
Ça s'est passé hier en fin de journée à Plogoff. Tout ça sous les yeux de trois autres de leurs enfants, Vincent Serrano.
Oui, puisque c'est toute la famille, deux adultes et leurs quatre enfants qui se promenaient le long du Cap 6 à 18h30. Les trois adolescents préfèrent rester en hauteur sur le chemin de randonnée, mais le papa, la maman et l'un des fils de 12 ans décident de descendre sur la digue. Première vague, deuxième vague, et c'est finalement une lame de fond qui les fauche. Ils sont tous les trois emportés vers le large. Les trois ados assistent donc à la scène, impuissant, tétanisé même, puisque ce sont d'autres témoins qui appellent les secours. Lourd dispositif, mais rien n'y fait. Les pompiers du commandant Gérard récupèrent les corps inanimés.
Les deux premiers corps ont été récupérés en surface. Malheureusement, on savait que pour le jeune enfant, là, la recherche a duré plusieurs heures. C'est l'action de plongée qui a permis de retrouver le corps, en fait. Et là, on savait que le diagnostic c'était forcément fatal, quoi. C'était quand même... choqué, particulier, parce que là, il y a l'ensemble de la famille qui était présente. Après, évidemment que repêcher le corps d'un enfant, c'est pas quelque chose d'agréable.
En état de choc, les trois adolescents sont rapidement transportés à l'hôpital. En état de choc, justement, une enquête sera ouverte aujourd'hui pour répondre à cette question. Comment cet endroit réputé non dangereux a pu diviser cette famille entre la vie et la mort?
Récit glaçant signé Vincent Serrano. Procès du 13 novembre, fin des débats ce soir avant le début des plaidoiries. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Après 9 mois d'audience, c'est la dernière fois que les victimes ont la parole.
Frédéric sait qu'elle est l'une des dernières à faire ce chemin jusqu'à la barre. Une photo immense s'affiche derrière la cour. C'est Mathieu, son ancien compagnon, mort au Bataclan, qui sourit collé à leur petit garçon Basile. Basile est devenu ado. Il tient maintenant la main de sa mère qui tremble comme une feuille.
C'était aussi pour se rendre compte de Basile avait 9 ans à l'époque. Aujourd'hui, il en a 15. Il fait 1m80 et il y a un moment, c'est prendre la mesure de tout ce que Mathieu n'a pas vu. Comment il grandissait, ce qu'il devenait. Il ne pourra pas voir non plus la suite. Et ça, c'est quelque chose qui continue à me révolter.
6 ans après, Frédéric a toujours le réflexe de vouloir appeler Mathieu pour lui demander son avis. Elle a toujours l'angoisse de mourir elle aussi, puisque désormais, elle est le seul parent. Mais ces 9 mois de procès lui auront amené quelques réponses.
Comment il était mort? Dans quelles circonstances? L'écoute de la bande-son m'a aidée aussi. Il a été tué vraiment dans les premiers instants et ça m'a permis de me rendre compte de la soudaineté de ce qu'il avait vécu et qu'il n'avait pas souffert.
De la suite des plaidoiries, du verdict, Frédéric n'attend pas grand-chose, mais elle a porté sa petite pierre à l'histoire collective du 13 novembre et c'est ce qui compte pour elle aujourd'hui.
Cindy Hubert au Palais de Justice de Paris pour RTL. Direction à présent le Sri Lanka. 22 millions d'habitants et quasiment plus une goutte d'essence. Fabien vit dans le centre du pays.
Les gens ne peuvent pas aller travailler, les entreprises ne peuvent pas livrer. Des queues interminables aux stations essence font encore 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures de queue juste pour remplir un réservoir.
Jusqu'à 7 heures d'attente à la pompe, nous sommes à court d'essence, a même dit hier le Premier ministre sri-lankais. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
La crise que traverse le Sri Lanka est sans précédent et rien à voir bien sûr avec l'inflation qu'on connaît ici en Europe.
Hein. Oui bien sûr, hein. Au niveau chiffre, en France par exemple, on prévoit une hausse des prix de 5 à 6% d'ici l'été. Au Sri Lanka, on est déjà en quelques semaines à plus de 40% avec des records. Par exemple, les bouteilles de gaz sont passées de 1 800 roupies, la monnaie nationale, à plus de 8 000, ça fait plus 350%. 50%. Et puis bien sûr, les causes de cette crise ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Dans l'ex-Ceylan, des années de corruption ont vidé les caisses de l'État. Il n'y a plus d'argent, plus de devises pour acheter les produits importés, notamment pétrole et gaz. Conséquence, ces pénuries et ces coupures d'électricité. Pour payer ses fonctionnaires, l'État fait tourner la planche à billets, la roupie est donc dévaluée, ne vaut plus rien. Les autorités tiennent actuellement un discours de vérité. Les deux prochains mois vont être très difficiles, ont-elles prévenu. Pour l'instant, la population reste relativement calme. Et pour mettre fin à cette crise économique la plus grave depuis l'indépendance du pays en 1948, le gouvernement, nommé il y a quelques jours, compte sur l'aide de ses deux grands voisins et partenaires économiques, la Chine et l'Inde.
Et Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
Et puis c'est l'autre secret le mieux gardé du moment, quid de l'avenir de Kylian Mbappé.
Vous adorez ça. Paris ou le Real, la star du PSG officialisera tout ça dimanche midi au plus tard, peut-être même samedi. Info RTL. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour.
Ça veut dire quoi? Qu'il reste au Paris Saint-Germain si c'est samedi?
Comme vous y allez. Ben non, mais que ce soit ce week-end plutôt qu'en milieu de semaine prochaine n'est pas plus un indicateur. Il peut très bien annoncer son départ pour le club madrilène malgré la proximité du match du PSG demain soir, ce qui est assez dingue en tout cas dans cette situation actuelle. Et ça recoupe aussi les informations de Mathias Valton à Madrid au Real, c'est qu'à plusieurs étages des deux clubs, à des degrés divers de responsabilité, il n'y a aucune assurance de quoi que ce soit. On est à 24 heures ou 36 heures de cette annonce. Le cloisonnement opéré par l'entourage du joueur est hors norme, diffusant donc du coup de la fébrilité au PSG et au Real Madrid. Il n'y a pas de contrat signé, il y aura une information donnée avec un choix. Et depuis mardi, par exemple, il y a des réunions avec un cercle restreint pour ajuster le plan de communication. Puis pendant ce temps-là, on voit Kylian Mbappé qui s'entraîne ce matin tout naturellement avec ses coéquipiers et discuter avec Hakimi ou Marquinhos.
Mais est-ce que dans le PSG, les clubs, pardon, personne ne sait dans les clubs.
En fait, aujourd'hui, quand on sonde, que ce soit au Real Madrid ou au Paris Saint-Germain, on nous dit que plusieurs ne savent pas.
L'un et l'autre. La seule chose qu'on sait, c'est que l'offre du Paris Saint-Germain est sans doute deux fois et peut-être trois fois supérieure à celle du Real Madrid.
C'est des chiffres qui ont été évoqués par la presse espagnole, mais les part et d'autre, il y a aussi un moment où on est en train de réduire, vous savez, on appelle beaucoup de la prime à signature qui dépasse les 100 millions d'euros, peut-être 130 millions d'euros, et qu'aujourd'hui, il y a des discussions sur des chiffres comme cela.
Journalistes de RTL qui suivent le sport ont un pourcentage sur la prime à la signature de Mbappé ou pas?
Je réserve ma réponse.
Il est 12h42. Dans une seconde. Alors, je n'avais jamais entendu parler de la variole du singe.
Moi non plus.
Avant hier. Donc, on va en parler avec M. Combe. Ça va être intéressant sans doute et j'espère que nous serons rassurés. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Depuis quelques jours, vous entendez parler de cette maladie, la variole du singe.
Hier soir, le ministère de la Santé a envoyé un message à tous les professionnels de santé pour les appeler à la vigilance face à une situation qualifiée d'inhabituelle.
C'est une maladie qui se transmet à l'homme par contact avec des animaux sauvages. On signale déjà quelques dizaines de cas en Amérique du Nord et en Europe.
Des dizaines de cas en Europe, dont un en France. Les autorités françaises l'ont confirmé tout à l'heure. Il s'agit d'un homme, on le disait, hein, qui vit en Île-de-France, atteint donc de cette variole du singe. Alors faut-il s'inquiéter? Forcément, après 2 ans de pandémie, ces cas interpellent. Bonjour professeur Combe.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, infectiologue, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. D'abord, faut le rappeler, cette variole du singe n'est pas une maladie nouvelle.
Non, ce n'est pas une maladie nouvelle, c'est une maladie connue en Afrique depuis environ 5 décennies. Elle était jusque-là localisée en Afrique centrale, elle s'est étendue en Afrique de l'Ouest au cours des deux dernières décennies et il y a eu des cas importés en Europe.
Alors des cas importés, c'est-à-dire de gens qui étaient passés par l'Afrique ?
Oui, tous les cas jusqu'à maintenant qui avaient été importés en Europe, il y a eu 3 cas en 2018, 2 en Angleterre et puis en Israël, pas tout à fait l'Europe. Et ces 3 cas étaient des voyageurs ou des personnes qui revenaient du Nigeria.
Là, la nouveauté, et c'est notamment le cas du cas confirmé en France, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas mis les pieds en Afrique.
Oui, exact, mais le premier cas rapporté était en Angleterre et une personne qui revenait du Nigeria. Et on sait qu'il peut y avoir des chaînes de contamination avec une transmission interhumaine, parce que même si vous avez dit qu'initialement ça se transmet à partir d'un animal, après ça peut se transmettre d'homme à homme. Il y a eu déjà des chaînes de contamination qui ont été décrites au cours d'épidémies en Afrique. Donc c'est pas une nouveauté de savoir que ça se transmet d'homme à homme.
J'entends dire que les hommes, précisément, seraient plus concernés que les femmes. Est-ce une réalité ?
Alors, c'est difficile parce qu'on n'a pas toutes les données épidémiologiques. En Angleterre, apparemment, c'est tous des hommes, dont 4 qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Mais là où on s'est le mieux renseigné, c'est au Canada, à Québec, parce que là, les médecins de santé publique se sont exprimés hier soir. Et là, il y a 17 cas, tous chez des hommes, et a priori, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.
Ben oui, mais comment vous l'expliquez ? Parce que ces mêmes hommes ont parfois des relations sexuelles, j'imagine, avec des femmes. Donc, c'est-à-dire que les femmes sont immunisées ?
Non, les femmes ne sont pas immunisées. Il s'agit probablement de relations assez rapprochées. Voilà.
Comment ça se transmet ? C'est par fluide, on nous a expliqué ?
Alors, non, pas uniquement. Hein. C'est un principal contact, c'est de peau à peau, en fait. Mmh. Hein. Ça se transmet par contact, et ça se transmet aussi par les fluides corporels, notamment par voie respiratoire, mais c'est une transmission par les gouttelettes, quoi. Mmh. Donc c'est beaucoup moins contagieux que le Covid.
Lorsqu'on dit qu'il y a un premier cas en France de variole du singe, j'imagine qu'avant ce premier cas qu'on a diagnostiqué ces dernières heures, en France, il y a eu par le passé des personnes qui étaient contaminées et qui ont eu cette variole du singe. Ce n'est pas le premier cas en France de l'histoire.
Si, si. C'est le premier cas en France de l'histoire. C'est une maladie africaine, ce n'est pas une maladie des pays occidentaux. Et là, on assiste quand même à un phénomène émergent qui est la constitution de transmissions interhumaines chez des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes principalement, pas uniquement, et donnant des petits foyers épidémiques. Le mieux caractérisé, le mieux connu, c'est le foyer canadien, parce que là, les médecins se sont exprimés clairement.
Mais comment vous l'expliquez ? Premier cas de l'histoire en France, vous dites, ces cas qui se multiplient à la fois en Europe du Nord, en Europe, pourquoi tout d'un coup ? Est-ce que ce virus a muté, par exemple ? J'en sais rien.
C'est une possibilité, mais bon, apparemment, c'est le variant ouest-africain. Il n'y a que 2 variants existants, qui sont un variant centrafricain et un variant ouest-africain. Donc, il y a peut-être des sous-mutations, si on peut dire. Ce n'est pas un terme très approprié.
Et vous, en tant que médecin, vous êtes inquiet ou pas ?
Bah écoutez, le problème, c'est que c'est une maladie qui n'est pas très bien connue et que le peu qu'on en connaît, ça relève des épidémies africaines et notamment en République démocratique du Congo, dans des milieux très isolés dans la forêt tropicale. Donc des épidémies en milieu urbain, dans une communauté donnée, pour l'instant on ne connaît pas. Les connaissances qu'on en a des cas africains sont plutôt rassurantes, c'est-à-dire avec...
Il n'y a pas de mortalité et on nous dit que ça disparaît tout seul au bout de 20 jours, même s'il n'y a pas de vaccin, pas de traitement, mais je me demandais s'il y avait quand même des conséquences, parce que j'ai vu des photos avec des bubons, des pustules, je me dis, il doit rester quelques cicatrices ensuite.
Non, alors excusez-moi, parce que d'abord, je commente un peu ce que vous venez de dire, parce que ce n'est pas une maladie bénigne.
On peut en mourir.
Bah oui, on peut en mourir, premièrement. Deuxièmement, il y a un potentiel traitement curatif, même s'il n'est pas facilement disponible, il existe. Troisièmement, il y a une prévention possible, qui est le vaccin.
On vaccinait jusqu'en 1979 en France, c'était obligatoire.
Voilà.
Il faut reconstituer ces stocks de vaccins, professeur Combes, par mesure de précaution.
Écoute, Écoutez, là, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais bon, j'ai vu que les Espagnols envisageaient déjà de vacciner autour des cas, et notamment les personnes contacts, pour leur empêcher de faire la maladie. C'est un peu ce qui s'était passé dans l'épidémie américaine, où il n'y avait pas de transmission interhumaine, mais une transmission à partir d'animaux de compagnie. Et ils avaient vacciné autour des cas, et il n'y avait pas eu de cas secondaires. Donc, effectivement, on a des armes à notre disposition.
Bah merci, Monsieur Combe. Merci, c'était vraiment extrêmement intéressant de vous écouter. Si vous me permettez, je vous trouve un peu plus inquiétant que d'autres médecins que j'ai entendus depuis hier ou d'autres lectures que j'ai eues qui nous expliquaient que c'était pas, qu'il fallait pas s'inquiéter. Vous m'avez un peu inquiété, si vous me permettez, Monsieur Combe.
Je pense qu'il faut être prudent. Voilà,
le Covid est passé par là aussi, peut-être.
Voilà. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, de ces précisions. Merci. Et nous allons parler du nouveau gouvernement. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Moi, j'ai été nommé il y a quelques jours. Et je vous dis, on ne va pas se mettre la pression de décider là tout de suite maintenant. On veut la meilleure équipe.
Et cette équipe, la première de l'ère Elisabeth Borne, on la connaîtra très bientôt. Le nouveau gouvernement devrait en effet être annoncé cet après-midi. En attendant, retour sur les premiers pas de la nouvelle première ministre à Matignon. Avec nous, Benjamin Sportou, chef du service politique de RTL.
Rebonjour.
Rebonjour. Et Christelle Craplet de l'Institut BVA. Bonjour.
Bonjour.
Christelle, d'abord, si on regarde notre baromètre BVA pour RTL et Orange publié ce matin, Elisabeth Borne est créditée de 50% d'opinion positive. C'est moins que ses prédécesseurs à leur arrivée.
Effectivement, quand Édouard Philippe a été nommé à Matignon, il était crédité de 59% de bonne opinion. Et pour Jean Castex, c'était 56%. Donc Elisabeth Borne est un petit peu en deçà par rapport à ses prédécesseurs.
En même temps, il y a encore quelques semaines, peu de gens la connaissaient.
Exactement. Même, il y a un mois, on posait la question, il y avait un tiers des personnes qui nous disaient « je ne peux pas me prononcer, je ne la connais pas suffisamment ». Donc quelque part, c'est aussi pas si mal ce 50% de bonne opinion.
Et Benjamin, c'est gênant, ce pas d'état de grâce, ça empêche de donner un nouvel élan à Emmanuel Macron?
Je sais que vous n'aimez pas ça, mais je vais vous faire une réponse de Normand. Ah. Oui et non, oui, parce que c'est toujours agréable en politique de commencer sous de bons auspices, on va le dire. Hein, mais non, parce que si vous cassez la figure, en fait, eh bien, ça se voit moins quand vous commencez.
Non, mais il n'y a plus d'état de grâce. Il n'y a que des états de disgrâce.
Oui, non, mais attendez, l'état de grâce, c'est compliqué pour quelqu'un qui est connu et qui était déjà au gouvernement aussi.
Oui, mais on sait qu'Emmanuel Macron aime bien surprendre. Voilà, il n'y a pas eu l'effet là... waouh, quoi.
Ah, vous dites waouh.
Vous dites
waouh. Waouh. Bon, c'est pas grave, on peut dire. Non, très clairement, il n'y aura pas eu cet effet-là surprise, parce qu'en effet, on s'attendait à une figure politique qu'on ne connaissait pas, qui vient de l'extérieur. On a eu des noms qui ont beaucoup circulé. Finalement, il s'est rabattu, le président de la République, sur Elisabeth Borne, dont on parlait quand même depuis des semaines et des semaines. Donc en effet, c'est vrai que c'est plus compliqué d'avoir un engouement et donc un état de grâce, a fortiori, pour quelqu'un qui était déjà dans le sérail, j'allais dire, et déjà dans le gouvernement d'Emmanuel Macron pendant 5 ans, ce qui n'est pas rien.
Alors, son premier déplacement hier était au Mureau, et c'était fascinant ou sidérant d'écouter Madame Borne. Elle a parlé de quoi ? D'elle, de son parcours, de ses rêves, de ses petites filles. Et je me suis dit, on a quand même changé d'époque, parce que c'était une séquence de télé-réalité. Vous imaginez Raymond Barre en 1976, vous imaginez les premiers ministres aller dans une école et dire, il faut que les petits garçons croient en leurs rêves, il faut
ou
que...
Édith Cresson à son
ou
époque.
Édith Cresson. On est dans une séquence d'émotion, de rapport direct, manifestement à la population qui a beaucoup changé, me semble-t-il.
Oui, effectivement, ça a pas mal changé, mais vous parliez justement le fait d'être une femme. Nous, on leur a demandé aux Français, est-ce que c'est un atout handicap? Alors, ils sont quand même 4 sur 10 à nous dire que c'est plutôt un atout, mais pour la majorité des gens, 53%, finalement, ça ne change pas grand-chose. Être Premier ministre, on n'est pas jugé sur
le genre. J'ai envie de vous dire
que
c'est rassurant.
Mais... Oui, quelque part, c'est rassurant.
Parce que j'imagine qu'il y a 10 ou 20 ans, on faisait le même sondage. Je ne suis pas sûre.
Oui, les choses auraient pu être différentes. Et puis, c'est rassurant de voir que les gens jugent sur la politique et pas sur le genre de la personne.
C'est très rassurant. J'allais vous dire,
oui. C'est exactement. C'est un non-événement, en fait,
bien, que ce soit bien, exactement. C'est-à-dire que c'est là que vous voyez que les politiques étaient en retard sur la population française. Oui, c'est ni un atout, ni un handicap. On jugera sur les actes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui change tout.
Benjamin,
c'est-à-dire que ce n'est pas une question de genre, c'est une question d'action.
On attend le nouveau gouvernement. On a vu avec Thomas Després les noms qui sont cités. Est-ce que du coup, Emmanuel Macron a à cœur justement de se rattraper
Écoutez, d'après les noms qui nous arrivent, qui circulent, ce ne sera pas forcément des stars.
Ce ne sera pas
j'ai l'impression d'être un peu blasé, mais pour l'instant, oui. Alors, tout a circulé. On a même eu des listes qu'on n'avait jamais eues. C'était inédit, qui ont circulé dans tout Paris. Des listes totalement farfelues, dont on ne savait pas exactement d'où elles venaient. Alors, Michel Denisot, ministre des Sports, peut-être que ce sera lui au final.
Non.
Mais c'est... Ah, donc vous avez une information, Pascal, vous allez nous donner.
Sur le ministre des Sports, c'est plutôt Madame Oudéa Castéra qui tient la ligne.
Voilà. Donc vous aviez aussi son prénom échappe, Monsieur Molins, l'ancien.
L'ancien procureur.
On a parlé de Galien également, qui est un comédien de la Comédie française.
Systématiquement comme ça, mais vraiment tout cela n'est pas consolidé.
Je vous interromps, cher ami, parce qu'il est 12h58.
Je vous autorise.
La pause. Vous restez avec nous jusqu'à 14h30 et plus si affinité. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Le gouvernement devrait tomber dans l'après-midi. J'ai même entendu que ce sera à 15h pile. Monsieur Sportouche.
Certains nous disent 17h.
Bah, 14 et 15, c'est pendant.
Bien.
Voilà, ça tomberait
ça
bien. Et Arnould est là, qui est commercial, je le salue, qui habite Strasbourg. Bonjour Arnould.
Oui, bonjour Pascal.
Est-ce que vous avez un avis sur ce gouvernement qui arrive ?
Écoutez, un avis, oui, je pense qu'il faut des nouvelles têtes et il faut aussi garder les ministres emblématiques qu'il y avait dans le gouvernement d'avant.
Eh bien, vous allez nous donner votre gouvernement idéal, si j'ose dire. Mais Amandine, tout d'abord, le rappel des titres.
Donc, avec cette annonce du nouveau gouvernement prévu cet après-midi dans les toutes prochaines heures, dans la...